10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Et du coup, je tousse, excusez-moi. L'islam au présent, c'est en direct, hein, tous les samedis, entre 10h et 11h. Imam Abdelali Mamoun, comment allez-vous?
Alhamdulillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ça, c'est cette parole-là qui est magnifique, que tous les musulmans prononcent. Et rien qu'en prononçant cette formule que je viens de dire, Dieu m'accorde 30 bons points, 30 hasanat, comme on dit en arabe. Assalamu alaikum, dit hasanat, wa rahmatullah, dit hasanat, et wa barakatuhu, dit hasanat. Ça fait 30. Donc, voilà, alors que les mots qui sont utilisés, bon, ça peut apporter quelques hasanat. C'est toujours bien d'être courtois, de dire bonjour, de dire sabah al-khair, sabah al-nour, etc. Mais il n'y a pas mieux que le salam. Voilà, Philippe, pour débuter l'émission.
Et ça tombe bien, parce que ça introduit bien le sujet, puisque nous allons parler de la notion de paix en islam, Imam Abdelali Mamoun. Quel sens est-ce qu'on donne à cette notion de paix en islam?
Eh bien, la notion de salam a plusieurs sens. Quand on dit « Salamun alaykum » par exemple, « La nabtaril jahilin », c'est-à-dire que je vous informe que je ne serai pas une source d'insécurité pour vous. Je ne menacerai pas votre intégrité physique ou morale. J'essaye par ces mots-là de vous rassurer, de faire en sorte que vous soyez, on va dire, en toute sérénité, oui, en toute plénitude. Que voilà, moi qui viens à côté de vous, qui est près de vous, je ne serai en aucun cas une source de mal. Je vous tends la main pour vous montrer que ma main, il n'y a pas d'arme dedans. C'est l'origine de la poignée de main. Vous savez que la poignée de main, c'était pour s'assurer que chacun n'avait pas d'arme dans la main de l'autre, quoi. Donc à la fois on se tenait, donc l'un et l'autre étaient sûrs qu'ils n'avaient pas d'arme dans la main. Et puis en plus, on a cette formule que l'on ajoute, assalamu alaikum. Même quand on tend la main, on lève la main pour dire salut à quelqu'un, c'est à l'origine. Le sens, c'était pour dire que, regarde, mes mains, j'ai pas d'armes. Je suis pas là pour te faire du tort. Parce que là, à l'époque, c'était surtout des armes blanches. Donc, on montrait mains...
haut les mains.
Haut les mains pour montrer patte blanche, entre guillemets. que, voilà, on était pas une source de danger pour la personne que l'on croisait ou que l'on côtoyait ou que l'on venait de rencontrer.
Est-ce que vous savez combien de fois le mot salam est-il prononcé dans le Coran?
Oui, il est cité, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
Faites de la lecture rapide là, 18, parce que vous êtes 19, en train de lire le Coran 20, en direct.
21. Non, c'est directement la liste. Voilà, ça fait un peu plus de... Le mot salam, attention.
Salam, on entend
le mot salam, je ne parle pas des dérivés du mot salam, parce que dérivés de salam, il y a silm, il y a salim, il y a aslam, il y a islam. Le mot islam aussi est un mot qui est dans le Coran. Mais sinon, le mot salam, à proprement dit, c'est 21 fois dans le Coran. Donc tu vois que, mashallah, combien Rabbil Alamin est soucieux et n'arrête pas d'évoquer cette notion-là dans différents domaines. Alors, il y a d'abord cette expression « Salamun alaykum » pour ceux qui rentrent au paradis, où Dieu, dans le Coran, il dit « Utkhuluha bisalamin aminin » « Rentrez-y dans ce paradis en toute quiétude, en toute béatitude. » « Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam » Les salutations le jour où ils rencontrent leur Seigneur et qu'ils rentrent au paradis. « Salamun wa a'addallahu lahum ajran karima » Et Allah Azza wa Jalla leur a préparé une immense récompense ou une récompense honorable. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jalla « Khalidina fiha » Quand il parle des gens qui sont au paradis, ils y resteront éternellement. « Khalidina fiha bi'idhni rabbihim » par la permission de leur Seigneur, tahiyyatuhum fiha salam, leur salutation sera donc le salam. Donc ça, c'est, par exemple, encore un dernier, wanadaw ashab al-jannah, et ils interpelleront les gens du paradis en leur disant, an salamun alaykum, que la paix soit sur vous. Donc, la première formule qui est utilisée par les anges, qui accueillent les fidèles, les croyants, les gens qui méritent le paradis, eh bien, c'est le salam, les salutations de paix d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ses anges. Donc, ça, c'est la première catégorie que l'on retrouve dans le Coran quand on nous appelle à utiliser le terme salam. Il y a aussi le salam de Dieu à ses prophètes. Allah subhanahu wa ta'ala quand il dit وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُولُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى. Et quand Allah Azza wa Jal a envoyé à Ibrahim des anges pour lui annoncer une bonne nouvelle, notamment qu'il allait avoir un enfant avec Sarah, donc là, avec sa femme légitime.
Avec sa femme.
Voilà. Et alors que sa femme est très vieille, lui est très vieux, mais quand même Dieu décide de lui offrir ce miracle qui est l'enfant qu'il va naître, qui est Ishaq, alayhi salatu wassalam, que la paix et le salut de Dieu soient sur lui. Je répète que les prophètes que l'on dit entre guillemets juifs, c'est pas des prophètes juifs, c'est des prophètes du peuple d'Israël. Et Israël, c'est Jacob. Et Jacob est l'un des patriarches. Il y a trois patriarches, on va dire il y en a quatre avec Joseph, si on compte Joseph, mais en fin de compte, Joseph, lui, c'est l'un des 12 frères de la grande fratrie des enfants de Jacob, donc de Israël, parce que Israël veut dire Jacob. Et Jacob est le fils d'Isaac, le patriarche, et Isaac lui-même est le patriarche, fils du grand patriarche, Seyyidina Ibrahim, Abraham, alayhi salam. Donc Dieu lui envoie des anges, et lui envoie des anges qui lui donc présentent le salam. قالوا سلاما قال سلام قال سلام. Donc ils lui diront salam, lui répondra par le salam. Mais aussi le salam venant d'Allah comme une sorte de félicitation, de d'annonciation divine que cet homme à qui il rend hommage par ce salam, il est en train de lui dire que il a fait ce qu'il fallait comme il se doit et qu'il a accompli sa mission comme on lui a demandé. Et ceci est souvent utilisé par Dieu pour parler des prophètes. Par exemple, il dit Salamun ala Nuhin fil alamin, que la paix soit sur Nuh parmi toute l'humanité. Salamun ala Ibrahim dans sourate Safat. Salamun ala Musa wa Harun dans la sourate Safat aussi. Salamun ala Ilyasin dans sourate Safat encore une fois. Donc il s'adresse en disant salam aux prophètes pour leur rendre hommage, pour leur dire bravo, vous avez bien fait votre boulot, je suis fier de vous, je suis satisfait de vous. Je vous accorde mon agrément, ma félicité et bien entendu ma récompense au paradis parce que de toute façon vous êtes des prophètes. Et donc à partir de là, ce salam a une différente signification aussi pour préciser la baraka ou la quiétude, la béatitude que le musulman croyant va ressentir quand il va subir le salam de Dieu à un moment de l'année. Par exemple, la nuit du destin. Dieu dans le Coran, il dit Salamun hiya hatta matla al fajr. Elle est source de paix cette nuit-là et de béatitude jusqu'à l'aube. Mais tout ça pour nous dire quoi? Pour nous dire que ce salam-là, c'est pas simplement Dieu qui vous dit allez salam, allez bonjour mon gars. Non, c'est pour nous imprégner de ce salam. Ce salam va s'introduire en nous et nous allons donc nous-mêmes devenir source de paix. Et c'est la finalité, du moins, c'est encore une fois un moyen pour atteindre une vraie finalité. Quelle est la vraie finalité finalement que Dieu attend de nous vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des créatures? Eh bien, c'est ce que nous dit le prophète quand il dit « Vous n'entrerez », donc quand il dit dans un hadith authentique « Vous n'entrerez au paradis que si vous vous entraimez ». Donc, c'est finalement l'amour que Dieu attend de chacun d'entre nous. C'est la vraie finalité. La vraie finalité. Et là, il dit à ses compagnons Allah adullukum ala amrin idha fa'altumuhu tahabbtum, ne vous guiderai-je pas vers une action que si vous la multipliez, Allah azza wa jal va faire en sorte que vous allez vous aimer les uns les autres, que vous allez combler vos cœurs d'amour les uns pour les autres. Et là les compagnons ont dit bien sûr ya Rasulallah, dis-nous c'est quoi, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour qu'on s'aime plus. Qala afshu salam baynakum, répandez le salam entre vous. Donc le salam est une source d'amour, c'est le moyen qui est déjà en lui-même une finalité, pour atteindre une vraie et grande finalité qu'on appelle l'amour. S'aimer les uns les autres, aimer son prochain, qu'il soit musulman ou pas, on s'en fout. Ça, c'est son affaire entre lui et Dieu. Qu'il soit un animal ou qu'il soit un être humain, on s'en fout aussi. Ce sont tous les créatures de Dieu qui ressentent la douleur et la souffrance. Donc, on doit être source de paix avec toutes les créatures de Dieu. Dieu nous a mis, bien sûr, à notre disposition ces animaux, ces plantes, cette faune, cette flore, pour, bien entendu, que nous puissions combler nos besoins. Et donc, nous devons agir vis-à-vis de cette faune et cette flore avec salam, avec paix. Et donc, être d'une certaine manière source d'écologie, source de respect de la nature. Nous sommes pour le respect de l'environnement. Le musulman est source de paix avec cet environnement qu'il doit léguer à ses héritiers comme on lui a légué de ses parents. Donc, tout autour de lui, le croyant, quand il pratique cette notion de paix, il comble autour de lui les gens de paix et bien entendu échange avec eux ce sentiment d'amour qui est la finalité suprême. Et donc le salam est fondamental en islam. Il faut surtout pas s'imaginer que l'islam serait une religion qui appelle au chaos, au désordre, à la haine, c'est-à-dire au mépris et tout ce qui va être source contraire de ce qui va répandre la paix sur terre. Quand il parle Dieu à son prophète, il lui dit à ses détracteurs qui lui insultent, qui lui disent du mal, qui lui disent voilà des méchancetés, qui se moquent de lui, qui l'insultent. Dieu leur dit du coup à son prophète, il dit fasfah anhum, sois tolérant avec eux, pardonne-leur, allez. Wa qul salam, et dis salam. Fasawfa ya'lamun, ils verront, ils sauront plus tard ce qui va leur arriver. Mais pas de toi, ya Muhammad. Tu n'es pas là pour être mon bourreau sur terre, pour condamner les gens qui te font du mal, c'est moi qui va m'occuper d'eux. Fasawfa ya'lamun, ils verront ce qu'ils verront. Hein, ils sauront enfin ce qui vont lui arriver et ce qui vont leur arriver après. Mais pour l'instant, toi, ton seul rôle, ya Muhammad, c'est as-safh, le pardon, l'indulgence, la magnanimité, faire preuve d'indulgence totale et de salam. Il dit wa qul salam et dis salam ya Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Donc le croyant est invité à constamment à nourrir cette notion de paix en lui-même. Même ses pratiques religieuses ne sont que source de paix. Quand il évoque l'une des meilleures évocations, eh bien, il utilise justement la notion de salam.
Alors justement, Imam Abdelali, qu'est-ce que ça signifie quand Dieu pose son salam sur l'une de ses créatures ?
Eh bien, tout simplement, comme on vient de le dire concernant les prophètes que l'on vient de citer, eh bien, ce salam qui vient de Dieu à ces créatures, c'est pour leur manifester combien il est satisfait d'eux. C'est aussi pour les remercier. C'est en même temps pour leur dire bravo. Je vous ai demandé de faire quelque chose, vous l'avez fait comme je vous l'ai demandé. J'aurais pu le faire moi-même, j'aurais pu, d'un claquement de doigts, par exemple, aux prophètes qui ont pour mission de transmettre le message, j'aurais pu très bien directement, dans le cœur des hommes, imprégner leur cœur de foi et faire d'eux des gens pieux. Mais moi, ma volonté divine, c'est Dieu qui parle, c'est de tester et d'éprouver l'humanité, l'homme, avec un grand H, l'homme et la femme, bien sûr, de les éprouver en leur donnant le moyen de faire le bien et le mal. Et à eux de choisir. Voilà, je te donne les mêmes capacités à faire le bien qu'à faire le mal. À toi maintenant de choisir. وَنَفْسِنْ وَمَا سَوَّهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا, dit Dieu dans le Coran. Et une âme à qui Dieu a inculqué une ce qu'on appelle un instinct. Cet instinct, il le pousse à faire à la fois le bien et à la fois le mal. Donc l'homme est prédestiné et prédisposé à faire le bien comme à faire le mal. Et c'est à lui, donc à travers cet effort qu'il va faire sur lui-même, ce contrôle de soi, cette maîtrise de ses passions, eh bien, se sacrifier, faire des choses qui vont peut-être lui faire souffrir un petit peu, lui enlever certains conforts, mais qui vont plaire à Dieu, mais qui vont satisfaire la volonté de Dieu. Par exemple, rester dormir jusqu'au lever du soleil, c'est le confort, c'est dormir bien, mashallah. Mais de dire, voilà, non, Dieu te demande à l'aube, d'El Fajr, de te lever pour te laver, te purifier. Purifier ton corps et ensuite purifier ton âme pour commencer une journée de la meilleure des façons, de la façon que tu restes sous la protection de Dieu. Fa'anta fi dhimmatillah, comme le dit le prophète, que pour celui qui prie la prière de l'Fajr à l'heure, il reste sous la protection de l'heure, de Dieu, alors que celui qui s'endort, qui se laisse, emprisonné par les tourments démoniaques, lui se réveille très tard, il fait la grâce matinée, comme on dit. Et ô combien il est adéquat d'utiliser ce mot grâce, parce que il n'y a aucune finesse dans cette grâce matinée. On dort pour dormir, pour pas faire passer le temps et ne pas profiter de sa journée.
Oui, c'est pas une matinée de grâce.
Le prophète, même le dimanche, le prophète sallam dit Bourikali ummati fi bukuriha. Un Dieu a comblé ma communauté de sa bénédiction parce qu'il se lève tôt. Parce que ce sont des lève-tôt. Les musulmans qui se lèvent tard, les jeunes surtout qui dorment très tard pour se réveiller très tard, n'ont dans ce comportement-là aucune attitude compatible avec ce que Dieu attend d'eux. Le croyant doit, comme le prophète, après les chats, il discutait rarement le prophète, il bavardait pas avec sa famille, il allait dormir. Hein? Quand on a interrogé le prophète sur la prière de l'Aïcha, il a dit, il a répondu كان, celui qui a témoigné sur lui a dit كان يكره النوم قبله, il détestait dormir avant l'Isha, ويكره الحديث بعده, et il n'aimait pas discuter après. Ça ne l'a pas empêché que parfois, bien sûr, il discute, ou notamment avec ses femmes, il y avait ce qu'on appelle des samar, hein, des sahar, كان يسهر ويسمر مع زوجاته, avec ses épouses, عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهن, et que Dieu les agrée. Donc, ça arrivait que le prophète veillait, mais la plupart du temps, après l'Isha, il allait dormir. Pour pouvoir se réveiller la nuit, pour pouvoir profiter de la matinée, de travailler la journée, et pourquoi pas aussi pratiquer un acte qui est très bon pour le corps humain et très bon pour la santé, c'est la sieste. Hein, le prophète a recommandé sa communauté à faire la sieste en leur disant « Aqilu », c'est-à-dire « Faites la sieste ».« Fa inna shayatina la taqil ». Car les démons, eux, ne pratiquent pas cette sieste. Et c'est vrai que le corps a besoin, du moins le cerveau, l'esprit, surtout quand on travaille beaucoup devant un PC, il faut se donner, à un moment donné, cette pause dans la journée pour retrouver toute son énergie et toutes ses capacités de réflexion, voilà, d'enthousiasme et de motivation pour exceller dans le reste, l'autre fin de la journée.
On parle de la paix ce matin. Si vous avez des questions à poser à l'imam Abdelali, vous êtes les bienvenus. Vous composez le 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
L'islam au présent revient dans un instant. Beur FM, 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon.
Voilà, nous parlons de la notion de paix en islam avec l'imam Abdelali Mamoun ce matin. Dans un instant, on prendra vos questions au 01 53 48 3000. Vous êtes déjà nombreux à attendre l'imam. Mais une bonne nouvelle, imam Abdelali. Alors c'est vrai qu'il y a eu quelques semaines, on va dire, de flottement, puisqu'on savait pas très bien si les frontières allaient fermer ou pas. Mais ça y est, vous partez à l'Omra.
Inch'Allah, ouais, le 22, c'est décidé. Nous partons, Inch'Allah. Donc, ceux qui veulent partir avec moi, c'est encore le temps. Ne vous inquiétez pas, faut pas vous dire non, c'est trop tard. Si vous avez pris des congés pour ces fêtes de fin d'année, eh bien, il vous est possible de m'appeler pour participer avec moi et que je puisse vous accompagner et assurer, Inch'Allah, avec vous, l'accomplissement d'un des plus beaux voyages de votre vie, qui est la Umra, et la visite du berceau de l'islam, en l'occurrence les lieux saints que sont la Mecque et Médine, la Kaaba al-Musharrafa, bien sûr, à la Mecque, l'accomplissement d'une Umra, et même d'une deuxième, pourquoi pas, ou même plus, si on veut. Et puis, bien entendu, aller visiter la tombe de notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Médine, et ses compagnons à là-bas aussi, à côté de la mosquée qu'on appelle le cimetière de l'Baqir, mais aussi le cimetière des martyrs à Uhud, la visite de la mosquée de Quba, bref, plein de choses qui vous seront proposées, que je n'aurai peut-être, bon, on aura peut-être le temps d'en parler encore la semaine prochaine, mais je crois la semaine prochaine ça sera trop tard. Faut vraiment que là aujourd'hui,
il faut que ça se décide cette semaine quand même,
cette semaine vous preniez une décision.
Le départ c'est la semaine d'après, en fait
c'est mardi, mardi de mercredi 22,
mercredi 22, oui,
22, c'est ça,
oui, c'est 22, mercredi,
voilà, 22. Il faut, pour qu'on puisse accomplir une première Jumu'a à Médine, c'est ça l'objectif, et que ensuite, la semaine d'après, le vendredi du 31, on puisse là encore être à la Mecque pour pouvoir accomplir le Jumu'a, la prière du vendredi, à la grande mosquée de la Mecque, de Masjid al-Haram. Donc c'est une Jumu'a à Médine, une Jumu'a à la Mecque, et le lendemain, le 1er, qui sera le samedi 1er janvier, le jour de l'an, nous rentrons en France, Inch'Allah ta'ala. Donc c'est vraiment vous donner l'opportunité de terminer cette année en beauté, de promouvoir un moyen pour vous de vous ressourcer, de vous remettre d'aplomb, de vous pouvoir donner l'opportunité de vous poser toutes les questions que vous avez besoin, auxquelles vous avez besoin de réfléchir, et puis surtout faire des invocations, parce que beaucoup, je sais, ont des difficultés, se retrouvent souvent dans des impasses, et quand on est dans des impasses et qu'on est dans l'incapacité de par des causes, en utilisant des causes à effet rationnel, eh bien, le seul moyen après, c'est de s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala.
Donc, départ le mercredi 22 décembre, retour en France, donc ça veut dire le dimanche 2 janvier, c'est ça?
Non, le 1er, le samedi. Ah,
de la journée, vous serez rentré.
Samedi 1er, on sera rentré.
Vous serez rentré. Bien.
C'est par Égypte Air, donc c'est par qui est la troisième compagnie saoudienne qui a été autorisée atterrir dans les aéroports des lieux.
D'accord, vous allez faire une escale au Caire alors.
Ah, forcément obligé. Ouais. De toute façon, dans tous les cas, il y a une escale. Même la Saudian Airlines vous emmène de Paris à Jeddah, mais de Jeddah pour aller à Médine, il faut prendre encore un autre avion. Mm-hmm. Donc c'est toujours une escale.
Il n'y a pas de direct.
Non, Paris-Médine, ça n'existe pas. En dehors du Hajj, ça n'existe pas. Pendant la Umrah, toute l'année, les vols Paris-Médine, c'est pas possible. Je crois qu'il y a des conventions internationales qui autorisent seulement l'atterrissage seulement à Riyad ou à Jeddah. C'est les deux villes saoudiennes entre Paris qui peuvent
atterrir. Aujourd'hui, donc,
voilà. Là, on est obligé donc d'arriver à Jeddah, pareil, faire une escale et puis on peut prendre un autre avion pour partir à Médine. Donc, escale, autant escale, voilà, que ça soit Saudian Airlines ou Égyptaire, en tous les cas, on descend au Caire pour reprendre un autre vol vers Médine et ensuite au retour par Jeddah vers la France. Voilà, Inch'Allah ta'ala.
On donnera le numéro de téléphone de l'imam tout à l'heure. Alors, Sabrina est avec nous au 01 53 48 3000. Sabrina, vous êtes la bienvenue.
Merci Philippe, bonjour.
Salam alaikum. Wa alaikum salam. Vous voyez, Mashallah, le sens de ce mot, comment il donne de l'importance, comment il prend de l'ampleur et de la beauté quand on se rencontre, quand on se découvre, quand on fait connaissance. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'est-ce qu'elle est belle cette phrase.
Mashallah. Je voudrais vous poser une question, cher Diman. Salat al-Fajr est-elle obligatoire?
Salat al-Fajr n'est pas une prière obligatoire. C'est la prière de Subh à l'heure de l'Fajr qui est obligatoire. Je répète. Attendez, laissez-moi répondre à la question, s'il vous plaît, madame. Le matin, à l'aube, c'est-à-dire à l'heure de l'Fajr, vous avez deux prières. Vous avez une prière surérogatoire qui est à voix basse, qui est une prière surérogatoire qui n'est pas obligatoire, mais qui est fortement recommandée. Que moi, je déconseille totalement. Ceux qui m'écoutent de la délaisser, il faut vraiment la faire, la sunna du Fajr. C'est sunna du Fajr à voix basse avec la Fatiha Qul Huwal Kafirun dans la première raka'a et à la Fatiha Qul Huwallahu Ahad dans la deuxième raka'a, dans la deuxième unité. Ça, c'est à voix basse et c'est surérogatoire. Ensuite, vous avez la prière obligatoire qui se fait tout de suite après. On n'attend pas Shourour pour faire la Subh. Attention, moi j'entends des gens qui restent comme ça réveillés jusqu'à Shourour, alors que Shourour, c'est la fin de l'heure de Subh. Il faut la faire au début, Salat al-Subh. Donc vous faites le Fajr et tout de suite derrière, vous faites Salat al-Subh. Vous pouvez entre les deux, si vous voulez lire un peu le Coran, c'est bien. Mais si vous ne l'avez pas prévu de lire le Coran, il faut tout de suite après Salat al-Fajr accomplir cette prière obligatoire qu'on appelle Salat al-Subh, qui est une prière à voix haute, obligatoire, avec l'Iqama avant. Et on récite la Fatiha et une sourate de son choix dans les deux, dans la première et dans la deuxième raka'a. Donc oui, madame, Salat al-Subh est obligatoire, la sunna du Fajr n'est pas obligatoire. Est-ce que j'ai répondu à votre question?
Oui. Autre chose, s'il vous plaît.
Allez-y vite.
Que dit Dieu, subhanahu wa ta'ala, à propos du sport pour les femmes?
Ben c'est bien, il faut faire du sport, pourquoi pas? Moi, j'encourage les femmes à faire du sport. Il n'y a pas de difficulté. Maintenant, ce qu'il faut, c'est faut pas que ce soit au détriment de sa pudeur. C'est tout. On peut faire du sport sans que ce soit au détriment de sa pudeur. On n'est pas obligé de se mettre dans une tenue, inadéquate,
Personnellement, Anaïs, j'ai l'intention de demander à Madame la Maire de nous ouvrir une salle de sport pour les femmes.
Alors non, ça, faut pas faire ça, parce qu'ils vont pas vous l'accorder. Il faut pas faire ça. Il faut avoir une association mixte d'hommes et de femmes, et vous vous arrangez ensuite quand vous avez les clés. De pouvoir demander à ce que, à un moment donné, vous soyez seules, les femmes. Mais faut pas que ça soit officiel. Faut pas que vous puissiez demander ce qu'on appelle des créneaux pour femmes. Dès que vous parlez créneaux femmes, tout de suite ça urge. Ça déclenche les excitations.
Et autre chose, s'il vous plaît. Je me sens souvent dans les habitants et dans les prières.
Oui. Eh bien, tout simplement, quand vous êtes dans vos ablutions, vous devez regarder quand vous avez la tête en l'air et qu'à un moment donné, vous retrouvez vos esprits, vous vous remettez dans vos ablutions. Il faut simplement regarder qu'est-ce que vous êtes en train de faire. C'est vous êtes en train d'essuyer vos cheveux, par exemple, et vous savez pas, votre tête, et vous savez pas si vous avez fait les bras, par exemple. Vous avez un doute. Eh bien, vous regardez vos bras. S'ils sont mouillés, ça veut dire que vous les avez faits. Il n'y a pas besoin de revenir. Même si vous ne les avez pas fait trois fois, c'est pas obligatoire, c'est une fois qui est obligatoire. La deuxième et la troisième sont facultatifs. Donc si tu regardes tes bras, bras droit et bras gauche, tu vois qu'ils sont mouillés, ton visage semble être mouillé lui aussi quand je regarde dans le miroir, mon visage est mouillé, c'est bon. Je n'ai pas besoin de me tourmenter, de revenir et recommencer à zéro mes ablutions. Ça c'est pour les ablutions. Pour ce qui est de la prière, je suis dans la prière, je me mets à penser à autre chose. Et puis à un moment donné, je retrouve mes esprits, je ne sais plus dans quelle raka'a je suis. Est-ce que je suis dans la deuxième, est-ce que je suis dans la troisième, dans quelle unité je me retrouve. Par exemple, Salat al-Dhuhr, je ne sais plus si j'ai fait la deuxième ou la troisième. Eh bien, il faut toujours se baser sur le minimum. C'est-à-dire, vous vous basez sur ce qui est sûr. Parce que quand on dit deux ou trois, deux c'est sûr, mais c'est la troisième, ce n'est pas sûr. Donc on jette l'incertitude, ce qui est incertain, on le jette, shak, on enlève le shak, et on garde ce qui est certain, l'yaqin, qui est deux. Et on construit sur deux. Et à la fin de notre prière, pour punir Shaitan de nous avoir tourmentés, nous accomplissons deux prosternations de l'oubli, qu'on appelle sujoud ou sahou, sajdatay sahou, de l'oubli. Voilà.
Voilà, Sabrina. Merci pour votre appel. On accueille Awatif. Awatif, bienvenue.
Bonjour, salam alaikum.
Wa alaikum salam, marhabani Awatif.
Je suis contente de vous avoir.
Le plaisir est partagé, Awatif. On vous écoute.
Moi, j'avais une question sur Zakat al-Mal, parce que on a de l'argent sur un compte depuis un peu plus d'un an, donc on sait qu'on doit donner. On voulait donner une partie à des associations pour les nécessiteux, mais aussi une partie, on voulait donner à une tante à moi qui est au Maroc, qui est divorcée et qui travaille. Elle a du mal à joindre les deux bouts, mais voilà, elle a aussi un appartement pour lequel elle paye un crédit. Donc, j'arrivais pas à savoir si elle c'était éligible ou pas, si on peut lui donner, si c'est recevable.
Alors, d'abord, il faut savoir que, déjà, pour que nos auditeurs comprennent un petit peu de quoi il s'agit, la zakat est le troisième pilier de l'islam qui consiste à s'acquitter de 1 sur 40, c'est-à-dire vous prenez la somme, le capital que vous avez thésaurisé, en français le verbe thésauriser, ça veut dire mettre de l'argent de côté, qui est un peu comparable au mot épargner. Sauf que le mot épargner, il y a des intérêts. Quand on dit épargner, c'est parce qu'on veut toucher des intérêts. On épargne de l'argent, oui.
On est sur son compte courant, il y a pas de, on peut épargner.
Ouais,
sans
ouais d'accord. Mais alors à ce moment-là, je pense que le terme adéquat c'est thésauriser.
Ouais.
On thésaurise de l'argent, donc on le transforme en trésor. Le Coran utilise le même terme en arabe, c'est le mot kenz. Il dit dans le Coran: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Et à la fin, il dit العذاب بما كنتم تكنزون. Goûtez au châtiment de Dieu pour l'argent que vous avez mis de côté, que vous avez thésaurisé, transformé en trésor et dont vous n'avez pas versé la zakat. Voilà, une firqouna fi sabila fabashirun bi'adab lam yawma tuhma alayhi, etc. Le verset il est un peu long. Et à la fin il dit bima kuntum taknizun, c'est-à-dire sur ce que vous avez thésaurisé. Donc c'est l'argent qu'on met de côté et qui a atteint le seuil minimum de la zakat, qui est environ de 4000 euros aujourd'hui ou 4000 et quelques selon le gramme, le prix du gramme d'or. Puisque c'est 85 grammes d'or. 85 grammes d'or.
Ça a beaucoup augmenté.
Ça a augmenté, donc ouais. On a dépassé les 4000, je crois. En tout cas, autour de 4000. Si vous avez plus de cette somme-là, vous êtes assujetti à la zakat tous les ans. C'est pas une fois vous avez payé, après ça y est, non. C'est tous les ans, cette même argent, vous devez vous reverser 1 sur 40. C'est-à-dire, vous divisez la totalité par 40. Par exemple, si vous avez 4000 euros, vous divisez par 40, ça fait 100. Ça veut dire que vous devez verser 100 euros pour 4000 euros. 8000 euros, ça fait 200 euros. 12 000 euros, ça fait 300 euros. Et ainsi de suite. Donc, tous les 4 000 euros, on a 100 euros. Ou tous les 1 000 euros, il y a 25 euros. Voilà. Voilà, ça, c'est pour ce qui est de ce que l'on doit donner. À qui on va la donner? On va la donner à une personne qui est dans le besoin, qui est considérée comme une personne nécessiteuse et qui n'arrive pas à joindre le deux bouts. Mais normalement, en principe, une personne ne doit pas avoir de crédit. On ne doit pas encourager le crédit, encourager des personnes à...
Ça, c'était la question.
Oui, c'était par rapport à la question.
C'était la question.
Donc moi, je ne sais pas, je ne suis pas habilité à savoir quel est le degré du besoin que votre tante a. Est-ce qu'elle est dans la catégorie des gens qui sont, on va dire, à qui s'applique la notion de misérable, de faqir ou à masakin. Innama sadaqat, dit dans le Coran, lil fuqara i wal masakin. Est-ce que si on la voit, on peut la qualifier de faqira ou bien de miskina? C'est ça la question. Si vous me dites oui, vous pouvez lui donner. Si vous me dites non, vous ne pouvez pas lui donner. Est-ce que je suis clair?
Je pense.
En plus, il faut savoir qu'un faqir, c'est quelqu'un qui ne possède pas le nisab. Ouais. Il ne possède pas le nisab. Y compris dans ce qu'il possède, dans des biens immobiliers. S'il a des biens immobiliers qui dépassent, dont la valeur dépasse le nisab, il n'est pas pauvre. Ça veut dire qu'il n'est pas pauvre.
C'est ça. Parce que j'ai une autre tante qui, elle, ne possède rien. un mari qui ne travaille pas et elle-même voilà ne travaille pas, donc qui
alors oui, vous pouvez, en tout cas écoutez, moi je suis pas là pour analyser chaque situation, c'est à vous de faire cette analyse. Si elle rentre dans la catégorie des masakin et des fuqara, yajouz, on a le droit.
Parce que
si elle rentre pas, non. Voilà.
Il y a celui qui peut s'habiller quand même et qui peut pas. Il y a deux définitions de pauvre, je crois, et c'est ça que j'arrivais pas à comprendre.
Non, c'est celui qui n'arrive pas à combler ses besoins nécessaires, les besoins nécessaires.
D'accord. Hein,
je parle pas d'acheter des vêtements de marque. Ouais, il arrive pas à acheter des vêtements de marque. Bah attendez, bah moi aussi j'arrive pas à acheter des vêtements de marque, mais j'arrive à acheter à manger, j'arrive à me nourrir, je meurs pas de faim. Donc j'arrive quand même à m'acheter à manger au minimum, allez, au moins une ou deux fois de la viande par mois, minimum, pour au moins combler mes besoins caloriques et protéines de viande par mois. Un petit chouïa quand même de viande. Voilà, c'est ça ce qu'on appelle quelqu'un qui est à la limite de la pauvreté. Si elle est au-dessus de cette limite-là, eh bien non, il n'est pas pauvre. S'il est en dessous de ce niveau, eh bien, de pauvreté, eh bien oui, il est assujetti, il peut profiter de la zakat. Voilà.
Voilà, Awatif, ce que l'imam Abdelali pouvait vous dire ce matin. Merci pour votre appel. On prendra d'autres appels dans un instant. Je vous rappelle que c'est l'islam au présent jusqu'à 11h. Le numéro du standard, le 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
L'islam au présent revient dans un instant. Beur FM, 10h, 11h. L'islam au présent avec Philippe Robichon.
Et l'imam Abdelali Mamoun qui répond tous les samedis en direct à vos questions. 01 53 48 3000. Oui, imam.
Oui, donc.
Vous voulez me dire quelque chose?
Rien du tout, Philippe.
Si,
tout va bien.
J'ai vu que vous voulez me dire quelque chose.
Non, il n'y a pas de souci, tout va bien.
Bon. Bon. Alors, on a Radia qui est avec nous. Radia, bienvenue.
De Toulouse. De Toulouse. Radia.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum. Radiallahu anki, ya orti. Kayfa halouk. Kayfa hal ahl Toulouse. Comment vont les Toulousains, la ville rose?
Un beau soleil.
Mashallah, mabrouk alaykoum. Bah nous, on n'a pas cette chance-là. On a quand même des nuages, nous. On est à Paris, on n'est pas...
Moi, je voulais vous demander, je voulais vous poser une question sur l'invocation. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire les invocations après la prière de Qiyam al-Layl, c'est-à-dire juste avant le Fajr?
Tout à fait. Il est très fortement recommandé d'utiliser ce moment pour faire des invocations, puisque dans un hadith authentique, il est dit que Allah subhanahu wa ta'ala descend dans le ciel de ce bas monde à ce moment-là, est plus attentif et plus à l'écoute de ceux qui lui font des invocations. Et il dit, n'y a-t-il pas quelqu'un parmi vous qui se lève, qui se réveille pour m'implorer, pour me demander son aide, mon aide, pour me demander que je lui accorde les biens de ce bas monde, que je lui accorde mon pardon et ma félicité? Et ainsi de suite, dira Dieu jusqu'à l'aube, jusqu'à que le soleil, du moins les rayons blancs de l'aube apparaissent dans le ciel. Donc il est très fortement recommandé à ce moment-là, au moment du Sahar, qu'on appelle le moment du Sahar, qui est les dernières minutes, ou on va dire les deux heures, le dernier tiers de la nuit.
Oui, le dernier tiers de
voilà,
la nuit.
Voilà, de faire des invocations dans lesquelles elles sont plus les meilleurs moments pour être exaucées, c'est ce moment-là bien sûr.
Et est-ce qu'on doit commencer les invocations en faisant l'istighfar comme pour les
Tout à fait. Qala ta'ala wa bil ashar hum yastaghfirun. La première invocation, puisque l'istighfar c'est une invocation. Demander le pardon à Dieu, c'est une invocation, bien entendu.
Donc après les prières.
Voilà. Ou même dans la prière, dans votre prosternation. Dans votre prosternation, dans la prière. Et après que vous terminez la prière, vous multipliez l'istighfar et vous faites des du'as en levant les mains au ciel. Et les mains au-dessus de vos épaules et de faire des doigts.
Je le fais, mais j'avais un doute. Je ne savais pas s'il fallait faire l'estirfa juste pour les prières obligatoires ou alors pour toutes les prières.
L'estirfa, il n'y a pas de règle, de moment ou de temps ou d'endroit, à part les toilettes, où est-ce qu'on ne peut pas faire l'estirfa. L'estirfa est recommandé par Dieu à tous ses croyants à tout moment. Il n'y a pas une formule que Dieu aime autant que le istighfar.
Merci beaucoup.
Astaghfirullah.
Astaghfirullah
al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wa atubu ilayk. C'est une des manières. Il y a aussi le seigneur d'istighfar, la meilleure manière, ce qu'on appelle Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Vous pouvez trouver cette invocation dans beaucoup de livres qu'on appelle Sayyid al-Istighfar. Voilà.
Merci pour votre question alors, Radia. Donc c'est Nassera qui est avec nous. Nassera, bienvenue.
Marhaban, Nassera. Allah yansrak.
Salam alaikum à vous tous. Imam, voilà, je vous ai appelé la semaine dernière pour m'aider à faire le partage de l'or que ma mère
oui.
a baissé la rahmah.
Oui.
Vous m'avez très bien guidé et je vous en remercie.
Ça, c'était au téléphone, c'était en privé.
Exactement, vous êtes en privé et vous m'avez aidé énormément et alhamdoulilah, je suis en paix avec ce fardeau qui m'était très lourd sur les épaules. Maintenant, il y a une question que j'ai oublié de vous poser mais qui n'a rien, je dirais, elle n'a pas de conséquences sur le partage que
allez-y, posez-la madame, on va gagner du temps.
Voilà. En fait, je voudrais savoir, est-ce que j'aurais pu demander à mes frères de partager équitablement ?
Vous pouvez le faire. Il n'est pas interdit de demander à vos frères de faire un cadeau, puisque quand ils vont partager équitablement, du moins pas équitablement, également, pas équitablement, on va utiliser le terme d'égalité, de mutasawiya, c'est-à-dire que chacun prend une part égale. C'est ça que vous voulez dire ?
Oui, voilà.
Voilà, donc également, avec égalité, non pas avec équité. L'équité, c'est pas forcément l'égalité, faut savoir ça. Donc l'équité n'est pas compatible forcément avec, ou ne correspond pas forcément à la notion de l'égalité.
L'équité, c'est qu'il fallait suivre...
Je rappelle qu'en islam, si Dieu a accordé plus aux garçons, c'est parce que Dieu a imposé aussi aux garçons d'assumer leurs sœurs, qui seront dans le besoin. Donc si vos sœurs sont dans le besoin, et qu'eux, les frères, vont prendre une part plus importante que leur sœur, c'est pour que Allah Azzawajal leur impose comme une épreuve d'assurer les besoins de leur sœur. Qui sont dans le besoin, bien sûr. Celles qui ne sont pas dans le besoin, il n'est pas nécessaire que les frères interviennent. Mais si une sœur se retrouve dans le besoin, le frère a un devoir de solidarité et de soutien financier, et matériel et affectueux et sécurité, tout ce qu'il faut pour sa sœur, qui est souvent, dans ce cas-là, célibataire, par exemple, ou veuve ou divorcée. Et qui se retrouve seul, les frères doivent prendre en charge cette sœur qui n'a pas de ressources, qui n'a pas de revenus. Voilà. Oui. Et si elle n'a pas de revenus, ils sont dans l'obligation. Je parle des frères, hein, même pas les sœurs. Les sœurs n'ont pas de devoir vis-à-vis de leur sœur. C'est les frères qui doivent prendre en charge leur sœur. Bien sûr, dans le cas où le papa est décédé et qu'il n'y a pas de mari et qu'elle n'a pas de ressources.
Donc la réponse à la question de Nassera, c'est oui.
Oui, avec conditions, avec les explications.
On aurait pu partager également
Mais il y a un hadith qui dit tout ce qui est pris par la pudeur n'est pas licite. On ne doit pas forcer la main aux gens. S'il n'a pas envie, il ne faut pas l'obliger. Dieu lui a accordé ce droit-là, il ne faut pas le chercher à ouais, mais c'est injuste, et vous essayez d'utiliser sa pudeur ou sa. Ou bien, vous voyez, il va te donner par l'hiya, par l'hishma. Non, on ne doit pas forcer les choses. S'il ne donne pas par lui-même, ce n'est pas la peine d'assister. Prenez votre part et puis contentez-vous de ce que Dieu vous a accordé.
Voilà ce que l'imam pouvait vous dire, Nassera. Alors, on a Abdelkrim, rapidement Abdelkrim, puisqu'on arrive au terme de cette émission. Abdelkrim, vous êtes le bienvenu.
Allô, salam alaikum.
Wa alaikum salam, Abdelkrim.
J'ai trois petites questions si vous pouvez poser.
Oui.
J'ai deux enfants handicapés mentaux, ils sont passés dans des centres.
Allah y shafik. Oui,
Kawik, Inch'Allah. Ils ont une pension pour qu'ils payent les factures et tout ce qui suit derrière. Seulement nous, quand on a les moyens de les aider, on les a dans leur vie, dans leur compte, c'est-à-dire pour que l'État ne sait pas ce qui peut arriver. Ma question, c'est de savoir, est-ce que, parce qu'ils ont ramassé cette question, est-ce qu'ils peuvent payer, ils doivent payer la
dette qu'ils ont là. Alors, Abdelkrim, l'imam aimerait beaucoup répondre à votre question, mais le problème, c'est qu'on vous entend mal.
On vous entend mal et je comprends à moitié ce que tu dis, Rouya. Je me tais pour ne pas te couper la parole.
Ce que vous allez faire, Abdelkrim, c'est que vous allez appeler l'imam après l'émission.
Voilà,
on va donner son numéro de téléphone.
Voilà, donc
le temps de rétablir.
Mon numéro de téléphone, c'est pour répondre aux questions de Abdelkrim et de tous ceux et toutes celles qui ont envie de me poser une question, vous pouvez m'appeler au 06 29 25 35 00. Alors, ce numéro-là, c'est aussi le numéro pour s'inscrire, pour accomplir la Umra au mois de décembre, là.
Donc, du 22 décembre au 1er janvier.
Inch'Allah ta'ala. Donc, je vous invite à venir avec moi. Inch'Allah ta'ala. Vous allez passer des moments magnifiques et merveilleux. Donc, au 06 29 25 35 00. Une dernière chose. Une cagnotte est organisée pour ceux qui veulent s'acquitter de la zakat, savent pas à qui la donner. Pour notre association Éveil qui récolte des aides pour aider un malade à se soigner qui est venu d'Algérie, qui n'est pas pris en charge par la sécurité sociale et tout ça, donc, et qui doit payer l'intégralité de ses soins pour guérir d'un cancer. Donc voilà, il est atteint d'un cancer du côlon pour être précis, et il a besoin de faire de la chimio, de la radiothérapie, donc plein de soins, des médicaments, tout ça. Vous le savez bien que c'est très très coûteux. Donc n'hésitez pas, vous m'appelez, pareil, pour soutenir l'association Éveil, pour financer cette cagnotte, pour aider cet homme à guérir de sa maladie, Inch'Allah. Et la zakat est la bienvenue, les sadaqas, tout ce que vous voulez, sont les bienvenus au 06 29 25 35 00. Voilà, j'ai tout dit.
Voilà, Imam Abdelali, on vous retrouve samedi.
Inch'Allah, samedi prochain, oui, encore une
voilà,
fois, avant la fin de l'année.
Je vous donnerai la main lundi matin.
Avec plaisir.
Bon, on fait un gros bisou à l'imam qu'on retrouve. Je ne sais pas si on peut faire un bisou à l'imam d'ailleurs, mais
oui,
parce qu'il pique un peu l'imam.
Non, je ne pique rien du tout. Ah, ma barbe là.
Ouais,
je
ne
sais pas.
C'est un peu piquant comme.
Non, elle est assez longue pour être douce.
Je vous donne rendez-vous tout à l'heure avec Manuel Mariani pour Dessus de Table et nous parlerons de la cuisine des grands-mères. Alors, je ne sais pas comment votre grand-mère cuisinait-elle, Imam Abdelali, mais c'est quand même des souvenirs.
J'ai malheureusement pas eu l'occasion de
trop la connaître.
Si, si, j'ai pu la rencontrer, la mère de ma mère, à Marnia, elle est originaire de Matmar à Marnia, elle est décédée, Allah yarhamha, Allah yusa alayha. Ma mère aussi est décédée, Allah yarhamha. Donc je demande à tous ceux et toutes celles qui nous écoutent de faire des doigts pour ma mère et ma grand-mère et mes grands-parents. Mon père est encore vivant, alhamdulillah, rabbi tawla amra, inshallah, fi ta'atillah, wa s-saha wa l'afiyah, inshallah, ya rab. Et puis tous ceux et toutes celles qui nous écoutent aussi, qu'Allah guérisse leurs malades, qu'il leur accorde un prompt rétablissement et comble de miséricorde leurs défunts.
Assalamu alaykoum, amin. Tout à l'heure, midi.
Beurre FM, 10h-11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon.